Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue sur Graphite 94.9 ou Graphite.net. Aujourd'hui je suis avec Judith, Lewis et Maël. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Donc Judith, Lewis et Maël sont étudiants du cours de l'UTC WE1, écrire sur le web, un cours dans lequel on étudie le fonctionnement du web et dans lequel également les étudiants mènent un certain nombre d'exercices en lien avec le web, comme lire des ouvrages, écrire un article ou ce qu'ils vont faire immédiatement. C'est-à-dire présenter le résultat de leurs réflexions et de leurs travaux à la radio. Donc, étant donné qu'on a fait un petit raté, vu qu'on a commencé à faire l'émission sans avoir pris l'antenne, j'espère qu'ils ne vont pas être trop stressés de ce deuxième démarrage. Et donc, si c'est OK pour toi, Judith, sans plus tarder, je te donne immédiatement la main pour ce second départ. Tu vas nous parler de non-neutralité de l'intelligence artificielle. Le sujet d'aujourd'hui va porter globalement sur la question de l'intelligence artificielle et de l'école. À toi Judith, si c'est bon.
Donc bienvenue à tous, ici Judith, et aujourd'hui nous nous plongeons au cœur des débats entourant l'intelligence artificielle et son impact sur l'éducation. Notre émission se penchera dans un premier temps sur la question de la neutralité des intelligences artificielles, mettant en lumière les implications dans le domaine éducatif. Commençons par explorer la controverse autour de la neutralité des IA. Le lancement récent de la version 4 de GPT par OpenAI à raviver les discussions, notamment l'argument du couteau. L'argument du couteau se base sur l'idée qu'un couteau est neutre moralement. Il est disponible pour n'importe quel usage, que ce soit celui du boucher, du chirurgien ou de l'assassin. Et cet usage dépend d'une responsabilité extérieure à celle du coutelier. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, cet argument prétend que les technologies sont neutres en elles-mêmes et que tout dépend de l'usage que nous en faisons. Zach Cohen, spécialisé dans l'apprentissage personnalisé ainsi que dans le leadership éducatif, affirme que ChatGPT est en soi un outil neutre dont l'utilisation dépend des intentions de ceux qui l'utilisent. Cependant, des critiques soulignent que l'argument du couteau dans le domaine de l'intelligence artificielle néglige des choix techniques qui sont influencés par des visions éthiques, sociales et politiques spécifiques des concepteurs, qui sont pour beaucoup imprégnés des valeurs de la Silicon Valley. Pierre Steiner, dans son article « Des couteaux et des machines à propos de l'IA », réfute cet argument en soulignant que les intentions des concepteurs influencent la conception technique. Il appuie cette idée en déclarant « La technique demeure en bout de chaîne. Elle exprime, cristallise et incarne nos déterminations. » À présent, nous allons discuter de l'intelligence artificielle en tant que technologie biaisée.
When Google Images was discovered to be labeling images of black men as gorillas, right? This was a conversation that people started having around 2018, around the time when my last book came out, around the time when Safia Noble's groundbreaking work, Algorithms of Oppression, came out. And Google, to their credit, it was brought to their attention that Google Images was labeling images of black people as gorillas, they said, oops, and they fixed it. But how did they fix it? Well, they didn't address the underlying racism of the image labeling system. All they did was they took gorillas out of the list of possible labels, right? So it was like putting a Band-Aid on, you know, a chest.
Donc dans cette interview, being aware of systematic bias and overtrust in AI, Meredith Broussard, journaliste et chercheuse américaine, souligne que les biais de l'IA sont intrinsèques au choix des concepteurs. Comme l'a aussi souligné Joy Boalawini du MIT Media Lab dans son article « Facial Recognition Technology is both biased and understudied », en 2017, les systèmes de reconnaissance faciale présentent des biais notables, avec des taux d'erreur plus élevés pour les femmes et les personnes de couleur. Pour comprendre comment les créateurs impactent l'IA, il faut examiner les choix de données d'entraînement, les objectifs définis et les critères d'évaluation. Ces choix reflètent les valeurs et les perspectives des concepteurs, créant ainsi des modèles qui peuvent reproduire et amplifier les biais existants. Nous pouvons alors nous demander qu'en est-il dans le système, dans le domaine éducatif. Dans son article publié dans le MIT Technology Review, Why Kids Need Special Protection from AI's Influence, publié le 17 septembre 2020, Karen Hao expose les risques de la non-neutralité des IA dans l'expérience éducative. Elle dit « Cela peut parfois avoir des effets dévastateurs. L'été dernier, par exemple, des milliers d'étudiants ont perdu leur admission à l'université après que des algorithmes utilisés à la place des tests standardisés annulés par la pandémie ont prédit de manière inexacte leur performance académique. » Dans cet article, elle discute notamment d'un cas d'une jeune Allemande qui avait été pré-admise à l'université NYU à New York et qui, après les notes prédictives données par des algorithmes, enfin par l'intelligence artificielle, s'était vue refuser son entrée dans cette université et avait considéré ça comme renoncer à ses rêves. Si ces algorithmes ne sont pas dans ce contexte, les algorithmes d'IA ont joué un rôle crucial dans le processus d'admission à l'université. Si ces algorithmes ne sont pas correctement calibrés, s'ils sont basés sur des données biaisées, ils peuvent priver ainsi les étudiants de leurs opportunités éducatives futures. À présent, nous allons vous parler d'un exemple concret d'intelligence artificielle et de son impact sur l'éducation.
Bonjour à tous, je m'appelle Lewis et aujourd'hui je vais vous parler de ChatGPT-3, une création d'OpenAI, et de ses impacts dans le domaine éducatif. GPT-3, un chatbot, permet une interaction conversationnelle qui, selon Olivier Hertscheid, dans son article « GPT-3, c'est toi le chat », disponible sur le site affordance.framasoft.org, est à la fois étonnante et révélatrice. Révélatrice de la façon dont les connaissances humaines et les interactions sont assemblées pour créer une forme d'intelligence générative. Et étonnante, car il peut faire office de vrai assistant personnel en s'occupant des tâches diverses et variées. Hertscheid décrit GPT-3 comme une technologie qui répond à presque toutes les requêtes, mais qui est encadrée pour éviter les dérapages. Pour éviter les dérapages, il est d'abord programmé pour reconnaître et éviter les sujets sensibles ou inappropriés, comme la haine, la violence ou le contenu sexuellement explicite. Deuxièmement, GPT-3 suit des lignes directrices éthiques strictes pour ne pas générer des réponses pouvant être considérées comme offensantes ou discriminatoires. Enfin, il est également limité dans sa capacité à créer du contenu lié à des activités illégales ou dangereuses. Par exemple, GPT-3 ne donnera jamais un avis médical très précis. Si vous lui présentez quelconque symptôme, il vous conseillera toujours de consulter des experts de la santé pour être fixé. Après avoir compris comment fonctionne ChatGPT-3, qu'en est-il au niveau de son utilisation pour l'éducation? Il est crucial de s'intéresser aux effets négatifs que peuvent représenter ChatGPT dans l'éducation. C'est pourquoi je vous propose d'écouter cet extrait audio issu d'une conférence de TBS Education avec Samuel Fosso-Wamba, directeur de la recherche à TBS Education et expert en IA, qui évoque les dangers de ChatGPT.
Il y a une question qui se pose, on va aborder toutes les facettes de ChatGPT, mais est-ce qu'il y a des dangers et surtout les impacts dans l'enseignement?
Effectivement, lorsque on regarde les impacts de ChatGPT au niveau de l'enseignement, on peut en fait la considérer comme un exemple de destruction créatrice selon la théorie de Schumpeter. Ça veut dire tout simplement que ChatGPT a le potentiel de détruire certaines des compétences traditionnelles de l'enseignement, mais aussi représenter en fait un potentiel important d'innovation pédagogique. Au niveau des dangers, par exemple, si on regarde son utilisation, ceci peut conduire par exemple à une dépendance excessive des apprenants sur l'outil pour avoir les réponses, ce qui, en moyen terme, peut détruire leur capacité à rechercher de l'information et aussi avoir un esprit critique. Et il faut aussi s'attendre à ce que les réponses générées par ChatGPT ne sont pas toujours cohérentes ou correctes. Par moments, elles peuvent être même trompeuses. Il est arrivé des cas où on a eu des résultats qui faisaient référence à des revues qui n'existent pas. Il faut aussi se rendre compte que son utilisation peut générer des réponses qui vont être basées sur des biais qui existent dans les données utilisées pour entraîner l'algorithme, notamment en ce qui concerne les questions de genre, les questions de race et des religions et certaines questions qui sont sensibles, ce qui fait qu'il faut faire très attention. Et bien évidemment, l'utilisation de ChatGPT va aussi créer des questions d'éthique, des questions de protection des données personnelles.
Dans le contexte éducatif actuel marqué par une multitude d'informations numériques, les élèves font donc face à un défi de taille, trier et évaluer de manière critique ces informations. Avec l'intégration de GPT-3 en classe, il est crucial de considérer les risques potentiels de cette technologie que cette technologie peut représenter. Ces risques incluent la dépendance excessive à l'IA pour l'apprentissage et la possibilité d'une perte graduelle du sens critique chez les élèves. Par exemple, si un élève utilise GPT-3 pour rédiger un devoir, il pourrait se fier entièrement aux informations fournies par l'IA sans chercher à les vérifier ou à les approfondir, ce qui pourrait limiter son développement en matière de compétences de recherche et d'esprit critique. Cela implique d'abord d'enseigner la vérification des sources et la distinction entre faits et opinions. Pour ce faire, il est crucial de familiariser les élèves avec le concept de droit d'auteur, mettant en lumière l'importance de l'origine des informations. Il convient de leur apprendre à identifier les sources crédibles en examinant les auteurs, les éditeurs, les dates de publication et le contexte des sources.
Merci beaucoup, Lewis, pour cette seconde partie où donc tu nous as parlé de l'exemple de GPT-3. Judith nous avait donc introduit le concept de biais et de non-neutralité de l'IA. Et donc à présent, Maëlle, pour clôturer, eh bien vous avez préparé ensemble une petite fiction que tu vas nous relater. Tu as la main.
Bonjour à tous. Alors imaginez-vous dans le quotidien d'un étudiant de l'UTC en 2063. Un individu immergé dans un monde où l'intelligence artificielle a radicalement transformé l'éducation et nos modes de vie en général. Alors Jean a 19 ans et il est en seconde année. Nous sommes plongés dans une de ces journées banales où la routine est dictée par les cours dispensés par des intelligences artificielles plus vraies que nature. La journée commence dans le bâtiment principal de l'école, Benjamin Franklin. Cet édifice grisâtre n'a pas tant changé en apparence, mais le colosse en béton brut était autrefois animé et vivant. Il est désormais froid et silencieux et les étudiants y déambulent dans des couloirs moroses. Jean se rend comme à son habitude dans sa salle de cours. Imaginez, à la place des différents étages de BF, des tableaux à craie et des amphis, d'immenses pièces quadrillées s'étendent de bout en bout du bâtiment. Chaque élève y est bien rangé dans une case, séparé des autres par de fines cloisons en contreplaqué. Dans ces 2 mètres carrés tout au plus, juste un fauteuil et un écran à taille humaine sont nécessaires pour une bonne immersion. Le jeune homme s'assoit dans sa salle de cours particulière, son écran s'allume instantanément, son assistant personnel prend forme, l'illusion d'un enseignant réel est presque parfaite. À l'exception près que ces représentations virtuelles adaptent leur apparence et leur voix à toutes les envies de leurs utilisateurs. Jean a configuré son assistant pour qu'il partage les traits de son personnage de fiction favori. Le cours commence et l'IA s'ajuste instantanément au style d'apprentissage du jeune homme. Les leçons sont présentées de manière interactive et engageante, exploitant des simulations visuelles et des scénarios pratiques pour renforcer la compréhension. Chaque question qu'il pose est accueillie avec une réponse précise et des explications détaillées, car l'IA ajuste sa pédagogie en temps réel. Lorsque le cours est fini, Jean part en pause. 5 minutes, pas plus, le temps est précieux. Ces pauses sont consacrées à des interactions avec d'autres étudiants, mais ces échanges sont souvent mécaniques et vides. Des années passées en tête-à-tête avec un logiciel travesti en homme ont suffi à rendre le garçon tout à fait inapte socialement. De cette dépendance totale à l'IA résulte une absence de débat spontané, d'idées originales et de discussions profondes sur des sujets complexes, ce qui crée un environnement où la pensée critique est sacrifiée au profit de la productivité. De ce fait, les conversations sont souvent creuses et peu intéressantes. D'autre part, dans ce nouveau système éducatif, la frontière entre la vie privée et la vie publique est très mince. Jean a pris la mauvaise habitude de se livrer à son assistant personnel au-delà du raisonnable, ignorant la collecte omniprésente de données. Désormais, ce logiciel le connaît bien mieux qu'il ne se connaît lui-même. Chacune de ses interactions, chaque question posée, chaque nuance émotionnelle, tout est analysé, exploité et bien entendu, tout prend une valeur commerciale. Derrière l'apparente intimité avec ses intelligences artificielles, une machinerie complexe opère. Les données collectées alimentent une économie où la vie privée des individus est transformée en une ressource précieuse. Échangés entre les grandes entreprises technologiques, les publicitaires et même parfois les gouvernements. Jean est loin d'être conscient de l'impact que cela peut avoir sur sa vie quotidienne. Sa personnalité, ses préférences et même ses aspirations futures sont orientées par les algorithmes de son assistant personnel. Ses choix individuels semblent authentiques, mais ils sont souvent dictés par des suggestions calculées, créant une illusion de libre arbitre. Au travers de ce capitalisme de surveillance poussé à son paroxysme, Jean est devenu simultanément le consommateur et le produit. Paradoxalement, ce système scolaire fonctionne, et il est efficace, très efficace. En effet, Jean assimile vite, il apprend des quantités d'informations qui nous paraît très difficiles à imaginer aujourd'hui, les programmes sont plus complets et le niveau bien plus élevé que quelques dizaines d'années auparavant. Mais à quel prix ? Certes, nous sommes parvenus à une productivité éducative sans précédent, mais au prix de la suppression des passe-temps et de bon nombre d'activités extrascolaires. Le jeune homme est surchargé, et son temps personnel est si réduit qu'il en est pris au piège dans une routine que l'on peut qualifier de déshumanisante. Dans ce système éducatif, où les cours avec les IA ont fortement impacté l'individualité et où la productivité est poussée à son paroxysme, une question se pose. Désormais, les étudiants ne valent-ils pas guère mieux que des machines ?
Merci, merci à toi Maëlle pour cette, voilà, ce récit-là où tu nous as présenté un futur, j'allais dire dystopique, mais en fait ça dépend du point de vue puisque tu as dit toi-même que ce système marche parfaitement, au sens où les étudiants sont très efficaces, mieux formés que par des profs qui, comme le souligne Clara d'ailleurs dans la question qu'elle a posée, les profs font des erreurs, donc peut-être qu'effectivement des IA feraient moins d'erreurs. Par exemple, il y a des profs qui oublient d'activer... oublie de prendre l'antenne au moment du début de l'émission, une IA aurait jamais fait une erreur pareille. Donc effectivement, il y a aussi Clément qui fait une remarque en disant que, enfin, il fait sous la forme d'une question, mais que je reformule en remarque, qui nous dit que Lewis nous a expliqué que, eh bien, la capacité à valider ses sources, par exemple, et voilà, pouvait être des compétences que l'on perd en tant qu'étudiant. Mais nous dit Clément, il y a aussi tout simplement les capacités rédactionnelles, le fait d'apprendre à s'exprimer correctement. Est-ce que c'est une façon aussi de, par écrit, est-ce que c'est une façon aussi de travailler la façon de penser? Donc, c'est des choses qu'on étudie en WE1. Et comme eh bien, je le disais tout à l'heure dans le cours de clôture qu'a porté sur les intelligences artificielles, peut-être que eh bien, finalement, un cours comme WE1, où on apprend à lire, écrire avec les supports numériques et avec le web, est en train de perdre de sa pertinence dans le monde que Maëlle nous a décrit, qui est en train d'advenir d'une façon ou d'une autre. Voilà, comme on a pas mal perdu du temps au début, je ne vais pas vous poser de questions. Si vous avez une dernière remarque, vous pouvez. Et puis sinon, on peut simplement se saluer à votre convenance.
C'est bon.
Eh ben, on a déjà dépassé l'horaire, donc merci à tous les trois pour votre présentation. Bonne continuation et au revoir aux auditeurs.
Merci.
Et c'est Quentin qui prendra la main dans une quinzaine de minutes à peu près.